Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer.
C'est pas sexy Sarah ça.
C'est pas sexy choucroute Sarah ça.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, le premier podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Moi c'est Bruno Roca, bienvenue. Alors, nous sommes mercredi, oui, mais quelle date, ça y est, j'ai un trou. Ça arrive, je consulte mon portable portatif du futur. Nous sommes le 20 juin, excusez-moi bien sûr, le 20 juin. Je tenais à m'excuser pour l'absence de l'émission hier, et oui, un contretemps inopiné m'est tombé sur le coin de la caboche, et je n'ai pas pu faire autrement que d'annuler l'émission. Donc je suis vraiment désolé, j'espère que vous avez suivi mon petit message sur Twitter. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter de l'émission @revuedepressejv tout collé pour savoir exactement ce qui se passe en cas d'imprévu comme celui-ci, comme ça vous êtes au courant. Et puis ça nous permet d'échanger quelques mots et de joyeusement nous envoyer quelques fleurs pour comme malgré tout passer une bonne journée. Bref, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, nous sommes donc mercredi. Mercredi, cela veut dire que c'est la rubrique 100% Japon, de bien belles news venues du pays du soleil levant, entre modernité et tradition, comme le veut la formule totalement clichouille qu'on nous rabâche à longueur de reportage. Bref, on s'installe bien, on s'accroche à son casque et je vais vous caresser les esgourdes pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Allez, c'est parti avec une bonne brochette de news. Très grosse brochette ce matin, très très grosse. Sony lance la gamme PlayStation Hit des jeux PlayStation 4 à 20€. C'est une nouvelle gamme fera son entrée dans tous nos commerces le 18 juillet prochain. Donc un 19,99€ plus précisément sur une liste de titres. Ces prix seront bien sûr pratiqués également sur le PlayStation Store. Alors parmi la liste des jeux, on retrouve des valeurs sûres comme Bloodborne, Drive Club, Infamous, Second Son, Killzone Shadowfall, The Last of Us, la version remaster, Little Big Planet 3, Ratchet & Clank, Uncharted 4, Need for Speed, etc. Enfin, il y a plein de super jeux, Yakuza 0, Rayman, Legends, Batman, Arkham Knight, j'en passe, il y en a partout, Assassin 4, bref, de quoi compléter sa collection pour un prix relativement raisonnable, hein. Toujours dans l'actu, on va reparler d'Aguelos, donc je vous en avais parlé hier, vous le savez, c'est un jeu qui vient de Storybird Games, le studio pour lequel je travaille actuellement, mais le jeu Aguelos, je n'ai rien à voir avec ce titre-là. On en a parlé hier en long, en large, en travers, la transparence, tout ça, Monsieur Bourdin, les yeux dans les yeux, vous le savez. On parlait donc de la sortie sur Steam, qui a eu lieu donc hier, et ben sachez que les versions PS4, Xbox One et Switch ont été officialisées, et c'est pour le courant de l'année 2018, donc on aura bientôt une date plus précise. Autre news, alors celle-ci assez étonnante, c'est Nintendo et Disney qui vont devenir partenaires pour créer des émissions TV. J'ai lu ça sur lesnumériques.com, qui nous dit que Nintendo veut revenir sur les écrans de télévision et s'associe donc avec le groupe Disney pour y arriver. Nintendo va créer du contenu pour les chaînes Disney Channel et Disney XD qui sera diffusé cet été. Alors on nous précise qu'il ne s'agit pas de fiction, mais de jeux télévisés mettant en avant la dernière console de la firme japonaise. Donc ça va s'appeler Nintendo Switch Family Showdown, et ça mettra en scène 4 familles qui devront s'affronter sur des jeux Switch comme Super Mario Odyssey, Mario Tennis ou Just Dance 2018. Les numériques nous précisent qu'il s'agit là d'un début de partenariat qui permet non seulement à Nintendo de faire son retour sur les écrans, mais également de promouvoir sa console déjà très populaire et de continuer sa communication axée sur la famille. Mauvaise nouvelle, tout est relatif, bien sûr, mais on a pu lire sur Gameblog que les scénarios A et B disparaissent de Resident Evil 2, donc la version remake qui fait méchamment baver. Vraiment, vous le savez, j'en ai parlé plein de fois, mais je suis comme un petit foufou à chaque fois que je revisionne des images de ce remake. Par contre, les scénarios A et B, qui étaient l'une des grandes particularités de la version PlayStation, puisque je le rappelle, il y avait 2 scénarios par personnage. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'était dans les scénarios B qu'on pouvait voir le fameux Mr. X, qui, je le répète, à mes yeux, est beaucoup plus flippant que le Nemesis dans Resident Evil 3. C'était un peu le Nemesis avant l'heure, Et il vous poursuivait, il vous traquait dans le commissariat, dans les scénarios B de Léon et de Claire. Il traversait des murs sans prévenir, il vous coursait, enfin c'était hyper flippant. Alors j'espère qu'ils vont réussir malgré tout à l'intégrer dans le jeu. Mais voilà, donc c'est Gameblog qui nous parle de ça en relayant une interview des producteurs qui a été réalisée par Rely on Horror. Les producteurs, messieurs Hirabayashi et Kanda, qui ont déclaré, je cite, « Nous souhaitons toujours recréer la sensation de découvrir les deux faces d'une même histoire à travers les yeux de chacun des protagonistes. C'est pourquoi nous avons une campagne pour Léon et une pour Claire. Elles sont séparées et vous pouvez choisir avec qui débuter. Nous avons simplifié légèrement, rendu le tout plus élégant en éliminant la distinction entre A et B et en fusionnant en une seule histoire tout ce qui arrive aux protagonistes dans les deux scénarios. » Donc j'imagine qu'on devrait quand même voir Mr. X, ce serait vraiment un crime de lèse-majesté si on ne le voyait pas. Bon, il est vrai qu'il y avait déjà des petites incohérences entre ces quatre scénarios dans la version originale, mais enfin bon, voilà. Tant que vous me laissez Mr. X, je serai content. Et quoi qu'il arrive, je serai content malgré tout, puisque ce remake, cette relecture d'RE2 s'annonce vraiment excellentissime. Enfin, j'aimerais terminer ce point news en saluant la naissance d'un nouveau site qui se nomme Ludostri, qui a été lancé par Oscar Lemaire, notamment. Alors Oscar Lemaire, c'est le monsieur chiffre de Game Cult, qui a quand même sa petite réputation dans le milieu, n'est-ce pas? Et qui nous dit qu'après plus d'un an de travail, donc il lance Ludostri, un site, dit-il, de publication de long format sur l'histoire et les coulisses de l'industrie du jeu vidéo. C'est financé par le biais d'un Patreon. Alors écoutez, moi, dès que mes moyens me le permettront, je mettrai mon petit billet. Puisque Oscar Lemaire a eu la bonne idée de nous laisser en accès libre déjà des articles présents sur Ludostri. Tout d'abord, une critique de Super Mario Odyssey. Alors je ne suis pas d'accord sur certains points vraiment, mais ce n'est pas grave, tout point de vue est honorable. Et c'est toujours, avec Oscar Lemaire, extrêmement documenté, extrêmement détaillé et très analytique à la fois. On a également un focus sur Activision Blizzard, une revue de presse rétro, parce que en fait c'est des rubriques, donc vous avez la section critique, la section focus, la section revue de presse rétro. Alors ça vous fait sûrement penser à quelque chose, surtout si vous êtes tipeur, avec votre revue de presse rétro du samedi de la revue de presse JV. Mais déjà d'une, le nom n'est pas déposé, et je ne suis pas forcément le seul à pouvoir m'intéresser, bien sûr, à la presse jeux vidéo d'il y a 10, 15, 20 ans, voire plus. Et donc là, sur cette revue de presse rétro, Oscar Lemaire revient sur l'accueil de Street Fighter 2, et c'est passionnant à lire, vraiment. Enfin, il y a la rubrique feuilleton, qui est très certainement la meilleure du site, et là, le premier feuilleton offert au lecteur, sans avoir besoin de passer par le Patreon, c'est un immense, immense, immense papier sur Shigeru Miyamoto, où l'auteur cherche à comprendre la personnalité et philosophie du créateur, de mieux saisir son influence, ses contributions aux divers hits Nintendo, sa relation avec les équipes, etc. C'est passionnant, si vous aimez un tant soit peu Nintendo, vraiment, moi vous le savez, je suis N-sexuel, j'ai dévoré le papier vraiment d'un bout à l'autre, avant de m'endormir, je vous raconte ma vie dans le pieu avant de m'endormir, pourtant Dieu sait que je n'en pouvais plus, j'étais fatigué, et je l'ai dévoré, voilà, sur mon smartphone. C'était passionnant d'un bout à l'autre. Donc bien évidemment, ces rubriques-là, là nous proposent un papier offert pour nous faire découvrir Ludostri, bien sûr. Pour continuer à le lire, il faudra passer par le Patreon. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Mais c'est à lire d'urgence, en tout cas, ces premiers papiers gratuits. Si vous aimez les papiers fleuves d'Oscar Lemaire, vous allez vous y retrouver. D'ailleurs, au niveau de la mise en page, je trouve que ça ressemble énormément à ce qu'on peut trouver sur le premium de Game Cult. Je rêve peut-être, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, d'une version print des meilleurs dossiers, puisque je pense que ça mériterait d'être rangé dans sa belle bibliothèque. Le seul petit bémol, peut-être, pour moi, ce serait le nom Ludostri, que je trouve vraiment pas très beau, dommage. Mais après, c'est tout à fait personnel, c'est juste un point de vue. Peut-être qu'il plaira à la plupart d'entre vous. Mais je trouve que pour un site qui déjà affiche des papiers en accès gratuit d'une qualité telle, je trouve que le nom ne fait pas très envie. Mais j'imagine qu'il a été longuement réfléchi par Oscar Lemaire et qu'il le trouve à son goût. Et finalement, on s'en fiche un petit peu. Le principal, c'est que, moi, je vous le dis, dès que je le pourrai, je participerai au Patreon et je ne veux pas louper les futures mises à jour de Ludostri. Bonne chance donc à Oscar Lemaire, bonne chance à ce site qui mérite tous nos encouragements. En tout cas, on lui souhaite longue vie. Petit petite news de dernière minute, et oui, c'est la magie du podcast quotidien, qui vient de tomber alors que là je suis en plein montage de l'émission, mais je ne pouvais pas vous laisser l'écouter sans avoir cette news, car vous savez que j'aime bien vous apporter des news fraîches, pêchées du matin, ou du soir en l'occurrence. Donc c'est Sega qui a annoncé, qui vient d'annoncer là en direct live différé que Valkyria Chronicles 4 avait enfin une date de sortie en Occident sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est donc le 25 septembre prochain, c'est le 25 septembre prochain que Valkyria Chronicles 4 va débouler sur nos machines. Une démo devrait d'ailleurs ne pas tarder à apparaître sur les stores, celle-ci n'est pas encore datée, mais en tout cas, 25 septembre, le grand retour de Valkyria Chronicles chez nous, un épisode 4 vraiment efficace, peut-être pas du tout révolutionnaire, mais en tout cas ultra efficace, un épisode de qualité. Notez sur vos tablettes donc, 25 septembre prochain. Je vous l'ai dit, 25 septembre ? Oui, je vous l'ai dit. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant. L'OMS persiste à inclure le trouble du jeu vidéo parmi les maladies. Et oui, c'est GameCult qui nous rapporte ça. Alors, on en avait parlé dans l'émission longuement, le fait que l'OMS veuille inscrire dans son chapitre des addictions le trouble du jeu vidéo. Une partie, une belle partie même de la communauté scientifique s'était vraiment dressée contre cette décision, puisque une grande majorité d'études sérieuses tend à prouver que ce trouble n'est pas encore totalement avéré. Et bien sûr, une partie de l'industrie, la majorité de l'industrie s'est érigée aussi contre cette décision. Mais donc les vives protestations n'ont pas suffi. Et donc l'Organisation mondiale de la santé, dont nous rapporte GameCult la nouvelle classification internationale des maladies, compte désormais officiellement un chapitre sur le trouble du jeu vidéo dans la section consacrée aux addictions. Alors la présence d'un chapitre consacré au trouble du jeu vidéo, Gaming Disorder en anglais, dans les papiers de l'OMS, en dépit d'une forte opposition incluant des communautés scientifiques et médicales, provoque donc l'ire des associations. Le CEL, le syndicat des éditeurs français, s'est fendu d'une déclaration que je vous cite tout de suite. « Les raisons de cette inclusion, disent-ils, sont toujours grandement contestées et peu concluantes. Nous espérons que l'OMS voudra bien reconsidérer les preuves grandissantes qui lui sont présentées avant de soumettre l'intégration du trouble du jeu vidéo dans la version finale de la CIM-11, qui doit être validée l'année prochaine. L'inclusion de la pratique du jeu vidéo dans la catégorie des maladies mentales et des dépendances de la CIM-11 provoquerait une panique morale et entraînerait des abus de diagnostic, car elle ne serait pas fondée sur un nombre élevé de preuves, comme l'exige la formalisation de toute autre forme de désordre. » Alors GameCut nous dit qu'il est a priori encore temps pour l'OMS de reconsidérer sa position, étant donné que cette nouvelle classification internationale ne sera pas présentée à l'Assemblée mondiale de la santé, donc ça, ce sera en mai 2019, pardon, avant une entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2022. Donc on a encore un petit peu le temps. Alors attention aussi aux mots, j'ai tweeté là-dessus, car je vois popper un peu partout « jeux vidéo classés dans les maladies mentales ». Non, c'est l'addiction aux jeux vidéo qui serait catégorisée dans les maladies mentales. Alors après, on peut être tout à fait contre, mais ce n'est pas le jeu vidéo en tant que tel. Ce n'est pas la pratique, c'est la pratique abusive qui tend vers l'addiction. Donc là-dessus, on peut être en désaccord total, mais attention aux mots, attention aux raccourcis, bien sûr. Donc attendons de voir comment la situation va évoluer, mais j'ai l'impression que l'OMS tient mordicus à maintenir sa position. Écoutez, qui vivra verra, comme on dit. Allez, il est temps de passer à notre rubrique 100% Japon. Falcom voudrait installer Tokyo Xanadu comme une nouvelle franchise. Et oui, l'action RPG Tokyo Xanadu est sorti pour la première fois en septembre 2015 sur PlayStation Vita au Japon, souvenez-vous. Il a obtenu une version plus améliorée sur PlayStation 4 un an plus tard, et le président donc de Falcom, à savoir Toshihiro Kondo, envisage d'en faire carrément une franchise phare de la boîte. L'information provient d'un rapport sur les résultats financiers du deuxième trimestre de Falcom, où le président, monsieur Kondo, a fait savoir que Tokyo Xanadu avait été lancé à l'origine comme une nouvelle IP, une nouvelle franchise, une nouvelle propriété intellectuelle si vous voulez, alors que pour lui à ce moment-là, le reste de l'industrie avait tendance à multiplier les suites, un petit peu paresseuse. Donc jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un seul titre, Tokyo Xanadu, qui a été exceptionnellement bien reçu d'après Motio Kondo, et donc il pense à franchiser vraiment sa licence pour en faire une des marques phares hein, de Falcom. Alors je rappelle que la version PS4, la version améliorée hein, de Tokyo Xanadu s'appelait Tokyo Xanadu EX+, qui avait donc connu une sortie mondiale hein, sur PS4 et même PC en décembre 2017, hein, donc ça ne remonte pas à si loin que cela. Donc on devrait s'attendre à voir une belle suite de Tokyo Xanadu et pourquoi pas un développement beaucoup plus conséquent. De son côté, Hidetaka Miyazaki hein, de From Software, hein, Dark Souls, hein, Bloodborne, n'est-ce pas, on ne le présente plus, suggère fortement qu'un nouvel Armored Core est en approche. Et oui, on apprend ça sur Siliconera. Et vous vous souvenez peut-être hein, donc, que en décembre dernier, lorsque From Software hein, avait assuré que la série Armored Core ne serait pas terminée, hein, qu'il n'en avait pas fini avec cela, et que le président de la société, donc hein, Miyazaki, avait fait allusion à un développement possible pour la série. Alors ça, ça avait enflammé les fans hein, complètement. Et une information plus récente qui nous provient d'une interview hein, que le monsieur a donnée dans le dernier Famitsu au sujet du prochain jeu d'aventure VR hein, déraciné, vous savez, qui a été révélé à l'E3 2018. On en avait parlé dans les reports. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à les écouter si ce n'est pas encore fait, ou les débriefs des conférences E3 avec les auditeurs. Bref, parenthèse fermée. Donc dans cette interview, le président, le cher président Miyazaki a déclaré, je le cite, « Dans une interview précédente, j'ai parlé de trois grands axes de développement qui sont en cours d'élaboration chez From Software. Mais Déraciné n'en fait nullement partie. Oh que non !» Bon, le « oh que non », je l'ai rajouté pour ajouter un peu de dramatisation. Et donc, il conclut « Je voulais juste que les fans de From Software le sachent. » Alors, un autre indice aussi, hein, qui vraiment nous mène hein, vers vraiment le développement d'un nouvel épisode d'Armored Core, c'est qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça sur un site de recrutement que From Software est en recherche de collaborateurs pour un nouveau projet de monsieur Naoyuki Takahashi qui avait dirigé plusieurs épisodes de Armored Core. Alors, Armored Core, je sais que je prononce très très mal, je comprends très bien l'anglais, je l'écris, je le parle, mais j'ai une prononciation pourrie. Excusez-moi. Encore, hein, acceptez-moi avec ma différence. Bref, le dernier épisode de la série, hein, qui avait été sous-titré Verdict Day, et qui avait été dirigé hein, par Monsieur Takahashi d'ailleurs, est sorti en septembre 2013 hein, sur PS3 et Xbox 360, et c'est le dernier épisode en date. Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bonheur pour les fans tout ça, bien sûr. La version Nintendo Switch de Dragon Ball FighterZ est fixé au 27 septembre prochain au Japon. La date est tombée. Il en coûtera 6800 yens, ce qui nous fait, grosso merdo, 54€. Alors, il y aura des bonus de précommande qui ne manqueront pas de faire vibrer les fans et de les faire frétiller comme des petites frites. Nous avons des codes hein, pour obtenir immédiatement, hein, sans effort, Sangoku et Vegeta en version Super Saiyajin Blue. Une carte extrêmement rare, hein, super rare même d'ailleurs, je crois que c'est le terme adéquat pour le jeu Super Dragon Ball Heroes, et un code de téléchargement pour télécharger. Donc oui, un code de téléchargement c'est fait pour télécharger effectivement Dragon Ball Z Super Butoden hein, sur Super Famicom. Voilà qui ne manquera pas de faire plaisir aux nostalgiques. Attention, ce n'est pas tout, puisqu'il y aura l'inclusion de nouvelles méthodes de contrôle facilitant l'utilisation des coups spéciaux via les boutons L et R, bien sûr, ainsi que la possibilité de pouvoir se fighter joyeusement avec un Joy-Con par joueur. Ouais, parce qu'effectivement, quand un titre utilisant un beau panel de boutons, quand on l'adapte sur Switch, il faut aussi également prendre en compte l'aspect multijoueur, si c'est un jeu en tout cas qui est dédié multi, en local, et là effectivement, il faut repenser pas mal de choses. Pas de news hein, concernant l'Europe, hélas pour l'instant, mais nul doute que Bandai Namco communiquera là-dessus dans un délai plus ou moins proche. Tenez, une autre news que je vous dévoile comme ça au débeauté et qui vient de tomber là, maintenant, sur Gematsu, c'est Steins Gate Elite hein, qui est désormais attendu pour le 20 septembre prochain au Japon. Alors attention, il y aura une édition même limitée, oui, très limitée, à 18 000 yens, hein, ce qui nous fait 141€ à peu près. Et donc cette édition a été dévoilée, elle sera dispo en précommande à partir du 20 juin et ce jusqu'au 18 juillet. Qu'est-ce que nous proposera cette belle édition limitée? Eh bien, elle proposera une illustration exclusive du caractère design UK en haute définition, format A4, un storyboard réalisé par le grand Kenichi Kawamura avec des séquences d'animation de Steins Gate Elite et de l'anime Steins Gate Zero. tout ça format A4, 80 pages, oui monsieur, dame, vous avez bien entendu. Mais ce n'est pas tout, puisque on vous rajoute une pellicule prise à partir de l'animé, justement, 35 mm, 5 prises sélectionnées, un petit peu au hasard, on va pas se le cacher, mais enfin ça reste quand même le beau geste. Le jeu est également prévu pour cette année et en version physique, s'il vous plaît, attention, ça ne rigole pas, en Europe et aux États-Unis, et ce, sur PC, Switch, PS4 et Vita. Attention, cette version internationale sera uniquement doublée et sous-titrée en anglais, ne comptez pas y voir d'autres langues que cela, mais c'est déjà beaucoup, je pense, pour les fans qui n'ont certainement pas envie de râler ou de faire une pétition pour ça, en tout cas, je ne crois pas. Autre petite news qui vient de tomber sur le grand Gematsu, site que j'aime beaucoup, hein, je vais pas vous le cacher. Donc j'ai traduit pour vous, c'est que Fu Ryu annonce un autre JRPG sur cette bonne vieille PlayStation 4. Et cela s'appelle Cry Star. Ou Cry Star, hein, si vous préférez. Faut savoir que ce jeu-là, le scénariste hein, n'est autre que Naoki Izaya, un nom qui dira certainement quelque chose à celles et ceux parmi vous hein, qui s'était adonné au visual novel Canon sur Dreamcast, PSP, PS2 ou encore PC. Côté développement, on retrouve le studio Gem Drops qui avait déjà besogné sur Lost Sphere, Sakuna ou encore Gunslinger Stratos. Alors tout ça, c'est calé pour le 18 octobre au Japon pour la modique somme, mes amis, de 7980 yens, soit 62 euros. Cry Star a pour héroïne une jeune fille nommée Rei, qui est responsable de la mort de sa petite sœur. Déjà, ça c'est pas cool, hein, et ça pose une ambiance quelque part assez glauque. Mais elle est désormais récolteuse d'âmes pour le compte du diable. Oui, Rei a une vie quand même assez particulière. Et attendez, c'est pas fini, puisque c'est de ses larmes hein, que notre héroïne puise son pouvoir et matérialise même un chevalier protecteur d'un fort beau gabarit. Alors, ça c'est particulier, mais la bande-annonce, vous verrez, hein, le lien est dans la description de l'émission, les combats, donc en temps réel, hein, c'est un action RPG, ont l'air bien patateux, hein, c'est-à-dire bien péchu, quoi, si vous voulez. Ça a l'air d'avoir la pêche, c'est pas une foudre de technique, mais il y a quand même y a une petite ambiance qui plaît bien. Donc, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, le trailer, je trouve, est pour le moins sympathique. Et c'est ainsi que se termine cette édition du mercredi, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais vous remercier à nouveau pour tous vos partages sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est super important de faire connaître l'émission au plus grand nombre. Et puis mine de rien, on commence à s'approcher des 1 an. Certes, on n'est pas encore au mois de septembre, mais enfin, la revue de presse JV a presque terminé sa première saison. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment terminer cette saison et faire une petite pause avant de rattaquer la prochaine. Je suis en train de réfléchir là-dessus, hein. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le Tipeee, hein. Le lien est dans la description de l'émission si vous voulez m'aider à améliorer le contenu de l'émission et surtout avoir des super chouettes bonus comme la revue de presse rétro du samedi et la possibilité d'enregistrer à mes côtés la grande revue de presse JV d'ailleurs. Samedi soir, on devrait enregistrer la prochaine avec des tipeurs de choix et sexy en diable. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage, un panache et robustesse, et je vous dis donc à demain pour une nouvelle revue pleine d'amour et de pixels et de polygones et de tout ce que vous voulez. Allez, bonne journée, bye bye.